Comme vous le savez, nous avons appelé un jeune volontaire de toute l'Église pour aujourd'hui. Je dis volontaire parce qu'il ne s'agit pas d'un commandement divin comme le jour des expiations. Mais nous encourageons tous les membres à travers le monde à jeûner. Il y a quelques endroits où nous avons des conférences du monde de demain et certaines personnes ont jeûné la semaine dernière et d'autres le feront demain ou la semaine prochaine. Il est très stimulant de recevoir des lettres de personnes que nous connaissons, mais aussi de personnes que nous ne connaissons pas. Nous ne recevons pas beaucoup de ces lettres, mais celles que nous recevons nous viennent de personnes qui nous remercient pour nos actions, car elles ont pris conscience de la nécessité de celles-ci. Elles voient ce qui se passe dans le monde et comprennent que nous devons nous rapprocher de Dieu si nous voulons être en mesure de faire face aux années à venir. La question qui vient naturellement à l'esprit est la suivante. Pourquoi? Pourquoi jeûnons-nous aujourd'hui? Je pense qu'il est bon de commencer par Ésaïe 58. Et de se rappeler que le jeûne peut être fait correctement ou incorrectement. Nous savons que Jésus en a parlé aussi, mais ici, Ésaïe écrit, Ésaïe 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Vous savez, le monde parle de tout ce que Jésus a fait pour eux. En réalité, Dieu le Père et Jésus-Christ ont fait beaucoup pour nous. Il ne s'agit pas seulement du sacrifice du Christ ou du fait qu'il se soit sacrifié lui-même, mais aussi du Père. Ces points sont mis en évidence dans notre brochure sur ce sujet de Jean 3,16. Cela montre que le Père est très impliqué. Tous ceux d'entre vous qui sont des pères et des mères, si vous voyez votre enfant traverser une telle épreuve, vous réaliseriez à quel point c'est difficile et à quel point c'est dévastateur. C'est donc un sacrifice de la part de tous les deux. Verset 2. Tous les jours où ils marchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ils demandent. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Ainsi, le jeûne est un outil très important qui fait partie de la boîte à outils que nous pouvons utiliser pour nous rapprocher de Dieu. Cependant, il peut être accompli correctement ou incorrectement. Et il poursuit en montrant qu'en fait, verset 3, « Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. En d'autres termes, vous n'avez pas changé de comportement. Vous exploitez vos travailleurs, vous êtes égoïstes et cupides, leur dit-il. » Verset 4, « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Parfois, c'est pour se sentir mieux que quelqu'un d'autre ou encore pour implorer Dieu d'agir contre une personne qu'on n'aime pas. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courbez la tête comme un jonc. Est-ce d'être perçu comme souffrant de quelque manière et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? En d'autres termes, s'agit-il simplement d'avoir faim? Est-ce pour donner l'impression à nos voisins ou à d'autres personnes de souffrir d'une manière ou d'une autre? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, verset 6. C'est ce type de comportement que Dieu recherche à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. En d'autres termes, il s'agit d'opérer dans notre vie des changements qui affectent ceux qui nous entourent. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Il s'agit donc d'un moment propice à l'introspection, où il convient de se tourner vers autrui plutôt que vers soi-même, afin de prendre conscience des besoins des personnes qui nous entourent. C'est quelque chose que nous essayons de faire, idéalement, en étant empreint de compassion et en aidant les autres. Cependant, nous n'y parvenons pas toujours en raison de nos occupations, de la fatigue et de divers autres facteurs. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions en nous regardant dans le miroir. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». En d'autres termes, Dieu veut que nous changions notre comportement. Le temps du jeûne a pour but de nous humilier, et je donnerai quelques indications à ce sujet plus tard dans le sermon. Mais nous devons nous humilier. Nous ne devons pas nous sentir justes ou religieux parce que nous le faisons. Non, c'est le moment de se regarder dans le miroir de la loi divine, comme cela a été souligné dans la sermonnette sur le deuxième commandement, et de se regarder dans le miroir de la loi de Dieu, toute la loi de Dieu, et de voir où nous ne sommes pas à la hauteur, car je vous garantis que nous manquons tous à nos devoirs à un endroit ou à un autre, ou peut-être à plusieurs endroits. Verset 9. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Vous savez, il est question de pointer du doigt. Et nous disons, eh bien, je ne pointe pas du doigt. Parfois, nous le faisons à notre conjoint, à notre frère ou à notre sœur, peut-être. Nous considérons les autres comme la cause de nos problèmes, pensant que s'ils changeaient, tout irait bien. Il y a parfois des personnes qui pensent que leur diacre, leur ancien, leur ministre ou un autre membre de l'Église est le problème, au lieu de se regarder dans le miroir et voir où elles sont en défaut. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Puis, il parle un peu du jour du sabbat et de la manière dont nous l'observons. Dans ce sermon, je vais répondre à la question de savoir pourquoi nous jeûnons aujourd'hui. Je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse, mais j'aimerais d'abord vous présenter une perspective historique ainsi que des événements actuels. Vous savez, l'histoire ne se déroule pas en ligne droite. Dans ce monde, il y a des périodes où les choses sont vraiment mauvaises et sombres, et d'autres périodes où, au moins pour les individus dans différentes parties du monde, elles semblent plutôt bonnes. Je dirais que, pour la plupart d'entre nous, au cours de notre vie, pour la majorité d'entre nous, la vie a été plutôt bonne. Ce n'est pas le cas de la génération de mon père et de celles qui l'ont précédé. Vous savez, M. Armstrong a grandi et a connu deux guerres mondiales. Il a vécu la Grande Dépression. Il a vu ce qui s'est passé au Vietnam et en Corée avant cela. Il a vu un homme passer du pilotage d'un petit avion fragile à Kitty Hawk à celui d'un avion à réaction traversant les océans et a lui-même possédé un jet privé. Il a vécu l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de l'humanité. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'exception des personnes ayant effectué leur service militaire au Vietnam ou dans d'autres conflits plus récents, ainsi que celles ayant participé à des escarmouches, nous avons mené une belle vie. Je ne veux pas dire que tout le monde s'en est bien tiré, car certains d'entre vous ont perdu des conjoints, des enfants, d'autres ont traversé des épreuves terribles, des maladies, etc. Mais si l'on considère l'ensemble des choses, nous pouvons dire que les quelques 80 dernières années furent plutôt bonnes, si l'on considère l'histoire de l'humanité. Il y a eu des périodes bien pires. Mais il semble que nous entrions dans quelque chose de différent. Ces dernières années, il semble que notre monde soit en train de se préparer à des changements, comme le soulignait le Dr. Wanell dans le bulletin d'information. et je n'ai pas retenu le nom de l'autre personne qui soulignait elle aussi que ces choses se passaient. En 2017, Mikhail Gorbatchev déclarait « Il semble que le monde se prépare à la guerre. » Et depuis, nous avons eu la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient. Il y avait un espoir de paix à la suite d'un accord négocié avec un échange inégal de personnes où les Israéliens échangent de nombreux prisonniers, de nombreux terroristes condamnés à perpétuité, contre des individus innocents. Pour autant qu'un être humain puisse être innocent, qui dépérissait dans des tunnels souterrains depuis environ 400 jours. Il semble qu'ils vont procéder à ces échanges et nous nous réjouissons de ceux qui sont libérés. Mais je pense que nous savons tous qu'il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient, pas selon les Écritures. Et franchement, en regardant les choses d'un point de vue humain, cela ne semble pas être le cas. Il est important de noter que les Écritures montrent qu'il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient. M. Armstrong a commencé à lire les Écritures. À un stade donné de ses études, il s'est attardé au chapitre 11 de Daniel. Ce n'est pas nécessairement la première chose qu'il a lue, mais il a étudié le chapitre 11 du livre de Daniel et il a observé le monde dans lequel il vivait. Il semblait que certaines choses prédites et annoncées dans le livre de Daniel étaient en train de se produire pendant sa vie. J'aimerais lire quelques versets de Daniel 11, versets 40 à 45. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les temples de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Lorsque M. Armstrong a lu ces Écritures, voici ce qu'il a vu dans le monde de son époque. Après la Grande Dépression et même durant la Grande Dépression, il a vu que Mussolini attaquait l'Éthiopie, qui à l'époque s'appelait l'Abyssinie. À l'origine, l'Italie avait tenté de conquérir l'Éthiopie vers les années 1890, puis elle réessayait au milieu des années 1930. Selon Britannica.com, un accident frontalier entre l'Éthiopie et la Somalie italienne a donné à Benito Mussolini un prétexte pour intervenir, rejetant toutes les offres d'arbitrage. Les Italiens ont envahi l'Éthiopie le 3 octobre 1935. Il s'agit de l'une des guerres régionales qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Nous ne l'avons pas appelé ainsi, ou les gens ne l'ont pas appelé ainsi avant 1939, mais nous voyons que ces guerres mondiales commencent par diverses guerres régionales. Des événements qui se produisent ici et là. Il y a comme un esprit dans le monde qui mène à quelque chose d'inquiétant. M. Armstrong a vu cela. Il a vu Mussolini descendre avec de grandes forces en Éthiopie et se battre contre elle. Puis, lorsque la guerre a éclaté, la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est entrée en Afrique du Nord. Le plan consistait à bloquer la flotte britannique en Méditerranée, ainsi que les autres flottes présentes, en prenant le canal de Suez et, bien sûr, le port d'Alexandrie, où une grande partie des Alliés étaient retranchés, avec leurs navires pour le ravitaillement et ainsi de suite. L'objectif était de prendre ce port, de bloquer l'entrée du canal de Suez et aussi de prendre Gibraltar depuis l'Afrique ou le détroit de Gibraltar pour le bloquer. Les Britanniques et d'autres seraient retenus en Méditerranée, incapables de sortir et d'aller batailler ailleurs. Bien entendu, ce plan a finalement échoué. Les troupes allemandes et italiennes ont lancé des offensives en Afrique du Nord, qui ont encerclé Tobrouk et repoussé les forces alliées jusqu'à la frontière égyptienne. Cependant, les Britanniques ont arrêté les armées de l'Axe à El Alamein, une bataille très célèbre. Ce que M. Armstrong a vu, ce sont des troupes se déplaçant à travers l'Afrique du Nord en direction de l'Égypte. Il voyait les Italiens déjà en Éthiopie, au sud de l'Égypte, et l'Allemagne voulait entrer par le nord en passant par la Turquie. Mais la Turquie, qui avait été leur allié lors de la Première Guerre mondiale, ne voulait pas participer à la Seconde Guerre. Elle préférait les Britanniques, les Américains et les Alliés. Ils ont décidé de ne pas s'engager, ne voyant pas comment les choses allaient se dérouler à l'époque. Au début de la guerre, la situation n'était pas très bonne pour la Grande-Bretagne et l'Amérique n'était pas encore entrée en guerre. Mais la situation n'était pas bonne et ils ont donc décidé de rester neutres. L'Allemagne ne voulait pas se battre avec la Turquie et s'est donc déplacée un peu plus à l'est. Bien sûr, il voulait les champs de pétrole du Moyen-Orient. Mais M. Armstrong pouvait voir ce mouvement de pinces descendre et tout devait finalement passer par la Terre promise. C'est une sorte de pont. Il pouvait voir cela se produire. Lorsqu'il a vu ces événements et qu'il lisait Daniel 11, 40 et les suivants, cela ressemblait au temps de la fin. Il semblait que cela commençait à se produire à cette époque. C'était une période très sombre de l'histoire de l'homme. Au fur et à mesure que la guerre progressait, il se rendit compte que Hitler et Mussolini allaient perdre la guerre. Il s'est également rendu compte qu'il n'était que la sixième tête de la bête d'Apocalypse 17 et qu'il devait y en avoir une autre à venir. Il commença donc à avertir, alors même que la guerre touchait à sa fin, que l'Allemagne se releverait. Les gens ne pensaient pas que cela arriverait quand vous regardiez la destruction qui avait eu lieu en Allemagne, la dévastation qui en résultait. Les gens ne croyaient pas que c'était possible. Pourtant, nous avons vu l'Allemagne être une nation très pacifiste depuis cette époque, jusqu'à ce que M. Poutine envahisse l'Ukraine. Et boum! Ça s'est transformé juste comme cela. Les Allemands ont compris qu'ils devaient s'armer, qu'ils devaient se protéger. Maintenant, ce mouvement doit aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement l'Allemagne, mais toute l'Europe qui est en train de réaliser la même chose. Nous avons donc assisté à un changement radical des événements. Puis, un peu plus tard, le 7 octobre, lorsque le Hamas a envahi Israël, il a déclenché une deuxième guerre régionale qui a vraiment soulevé beaucoup de problèmes. Nous avons un nouveau président qui arrive, et je pense que beaucoup de gens ont de bons pressentiments quant à ce qui pourrait se produire. Nous savons que nos frontières sont ouvertes, et ainsi, nous ne savons pas qui se trouve dans le pays. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de cela. Mais nous devons veiller à ne pas nous laisser emporter par les émotions du moment. Dans Proverbe 16, il nous est dit quelque chose dont nous devrions tenir compte. Parfois, je pense que nous ne voyons pas que c'est Dieu qui commande. Il y a aussi un monde spirituel. Reportons-nous à Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle administration qui a de nombreux projets qu'ils veulent accomplir. Mais comment le Seigneur dirige-t-il les pas d'un individu? Eh bien, par les circonstances qui l'entourent. Il y a des choses qui peuvent arriver que nous ne connaissions pas encore. Nous devons faire très attention à ne pas nous laisser emporter par l'euphorie en pensant que tout à coup l'économie va redevenir merveilleuse. Et se peut que ce soit le cas. Je pense que nous l'espérons tous. Mais nous devons veiller à ne pas supposer que les choses vont se produire simplement parce qu'un individu est là. Quelqu'un que beaucoup considèrent comme une figure de Messie. En d'autres mots, la même chose nous est dite dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Dans Romains 13, l'apôtre Paul a fait ce commentaire. Il leur disait tout d'abord, au début du chapitre, d'être soumis aux autorités. Et je pense qu'il s'agit là d'un point sur lequel nous devons nous regarder dans le miroir. Je pense en effet que beaucoup trop de gens se laissent entraîner par des débats sur les politiciens et ce genre de choses. Il est dans la nature humaine de prendre parti pour l'un ou l'autre. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il nous dit de ne pas leur résister. Ailleurs, il nous dit de prier pour ceux qui détiennent le pouvoir. Le roi, les responsables, qui que ce soit qui détienne l'autorité. Notre monde, aujourd'hui, est tellement divisé. Et tout le monde est soit tout bon, soit tout mauvais. Toujours juste ou toujours faux. Et ce n'est pas la réalité. Pour préparer ce sermon, j'ai lu quelque chose sur Robert McNamara. Pour ceux qui ne se souviennent pas de lui ou qui sont trop jeunes pour s'en souvenir, il a travaillé pour l'administration de Lyndon Johnson. Il était statisticien. C'était son travail. Il a calculé que nous tuions un certain nombre de Viet Cong par jour en moyenne et que dans un certain temps, il n'y en aurait plus. Je pense que beaucoup de gens à l'époque ont pensé que c'était un peu stupide. Et ça l'était. Et dans mon esprit, Robert McNamara n'était pas exactement le meilleur gars du monde. Je pensais qu'il était tout simplement stupide. Mais en lisant un peu plus, j'ai appris que sa vie remontait à la Seconde Guerre mondiale et à certaines des choses qu'il y avait faites. C'était un homme qui, je pense, était tourmenté par certaines des décisions qu'il avait prises. À 80 ans, il a pu regarder en arrière et voir certaines des choses dans lesquelles il avait été impliqué, et il n'était pas vraiment heureux de tout cela. C'était un être humain, un homme créé à l'image de Dieu, qui occupait une place dans la vie grâce à ses talents, à ses compétences. Il se retrouvait dans des circonstances qu'il n'aurait jamais imaginées lorsqu'il était adolescent. Il n'avait probablement aucune idée de l'endroit où il finirait. Mais c'était un être humain. Vous savez, j'ai dû réfléchir à ce que je pense de certaines personnes. Nous ne savons pas toujours ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe dans leur esprit, quels sont les faits que nous ignorons. Nous devons faire très attention à la façon dont nous jugeons les autres. Mais ici, dans Romains 13, il parle de garder les commandements de Dieu. Il parle de s'aimer les uns les autres. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Cela a toujours été un thème dans l'Église. Être éveillé, être vigilant, de ne pas s'endormir. Il y avait donc un problème à l'époque de Paul, qu'il pouvait voir. Les gens n'étaient pas toujours aussi motivés qu'ils auraient dû l'être. Il se peut qu'ils se soient endormis aux commandes, comme on dit. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est plus vrai que jamais. Je regarde autour de moi et je vois quelques hommes et femmes qui sont allés à l'ambassadeur collège dans les années 50. Nous sommes quelques-uns ici. Et nous... Qu'est-ce que j'ai dit? Les années 50? Non, les années 60. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'en sais rien. Mais nous sommes allés au collège à l'époque. Et nous étions si idéalistes. Nous pensions qu'en 1975, le Christ reviendrait peut-être. Mais avant cela, nous nous rendions dans un lieu de sécurité et nous parlions de mariage sur les rochers à Petra en 1972, si quelqu'un n'avait pas eu le temps de se marier. Nous étions idéalistes. Depuis, je me suis rendu compte que dormir sur des rochers n'est plus aussi excitant qu'avant. Honnêtement, je pense parfois que ceux qui s'endorment sont à envier. Comme il le dit dans Ésaïe 57, verset 1. Ésaïe 57, verset 1. « Les justes sont emportés pour éviter le malheur à venir. » La version Osterval nous dit cela. Mais notre salut est plus proche. Nous vivons dans un monde qui peut devenir incontrôlable très rapidement. Les armes dont nous disposons aujourd'hui sont très différentes de celles de la Seconde Guerre mondiale. Très, très différentes. L'évolution rapide de la technologie, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui y est lié ne correspond pas à l'intelligence humaine, mais elle est capable de collecter et d'analyser des informations à une vitesse incroyable. Notre monde est en train de changer. Même Elon Musk dit que c'est la plus grande menace pour l'humanité si elle n'est pas gérée correctement. Et nous devons nous demander si l'humanité a su gérer correctement quoi que ce soit à long terme. Nous avons connu récemment quelques catastrophes. AccuWeather a rapporté ce qui suit sur l'impact financier de l'ouragan Helene. Je me demande combien d'entre nous en ont mesuré toutes les conséquences. Alors que l'ampleur des dommages catastrophiques aux infrastructures, des pertes humaines, des interruptions d'activité et de d'autres impacts économiques se précise à la suite de l'ouragan Helene, AccuWeather a revu à la hausse son estimation du total des dommages et des pertes économiques causées par l'ouragan Helene aux États-Unis, qui se situe entre 225 milliards et 250 milliards de dollars. On parle d'un quart de billion de dollars pour cette seule tempête. Je crois que c'était dans l'un des bulletins d'information. Nous pouvons ensuite penser à ce qui s'est passé plus récemment. AccuWeather estime que le coût financier des récents incendies en Californie du Sud se situe entre 250 et 275 milliards de dollars. Nous parlons de ces deux événements qui ont entraîné des pertes économiques d'un demi-billion de dollars. Et il y en a eu beaucoup d'autres. L'incendie Eaton, qui a détruit Altadena ou une partie d'Altadena. Je ne sais pas si je dirais une majeure partie, mais certainement une grande partie, est considéré comme l'incendie le plus coûteux de l'histoire de la Californie. L'incendie de Pacific Palisades est le deuxième de l'histoire de la Californie, c'est-à-dire à quel point ces incendies sont historiques. Et je pense qu'il devrait y avoir davantage de vent Santa Ana le mois prochain. C'est une caractéristique du sud de la Californie. Je me souviens que la première fois que j'ai senti un vent de Santa Ana, je me suis levé, je vivais à Ventura, j'ai entendu le vent souffler, En hiver, vous pensez qu'il fera froid. Vous sortez et vous êtes frappé par la chaleur. C'est un vent chaud qui vient du désert, du grand bassin, qui tourbillonne, qui traverse le désert, qui traverse la Californie du Sud. Cela se produit presque tous les hivers à un moment ou à un autre. Certaines années, c'est pire que d'autres. Cependant, j'aimerais proposer un jeu de « et si », si vous me le permettez. Et si? Que se passerait-il si 40% de la ville de Los Angeles était réduite en fumée et en cendres? Pas seulement à la périphérie de Los Angeles, car ce sont les banlieues qui ont été touchées, mais si 40% de Los Angeles était réduit en fumée et en cendres? Que se passerait-il si la moitié de la ville de New York était détruite? Ou si 35% de Chicago serait réduit en cendres? San Diego se trouve dans une région sujette aux incendies, mais que se passerait-il si 38% de San Diego brûlait? Ou bien 36% de Miami était soudainement détruit? Ou encore Chattanooga dans le Tennessee. Et si 99% de Chattanooga disparaissait? Ou 58% de la ville de Cleveland dans l'Ohio? Si elle était détruite par un incendie? Ou les deux tiers de Knoxville? Au plus près de nous, que se passerait-il si un tiers de la ville de Charlotte était brûlé? Vous rendez-vous compte que cela s'est déjà produit? C'est arrivé dans le passé? Il ne s'agit là que d'un échantillon des villes dévastées par le feu. Mais ce qu'il faut faire, c'est de changer les noms des villes en Toyama, Nagoya, Osaka, Kobe, Amuda, Yokohama et Tokyo. Nous connaissons tous les bombes atomiques. Tout le monde connaît les bombes atomiques. Mais combien de personnes réalisent que les pourcentages que je viens de donner, il y en avait 9, je crois, représentent ce qui est arrivé au Japon? Les États-Unis ont attaqué avec des bombes incendiaires 67 villes au Japon. Et ce que je vous ai donné n'est qu'un échantillon. Cela n'inclut même pas Hiroshima et Nagasaki. Le Japon, bien que de forme différente, est à peu près aussi grand que le Montana. Vous rendez-vous compte que si l'on inclut les deux bombes atomiques, cela représente 69 villes, dont certaines comptaient des millions d'habitants. Pas toutes les villes étaient aussi grandes, mais Tokyo l'était. Et elles ont été détruites de cette manière. Lorsque les soldats revenaient de la guerre au Japon, la situation devait être des plus décourageantes. Ils avaient peut-être entendu certaines choses, ils avaient peut-être une idée de la situation. Mais pouvez-vous imaginer ce que c'est que de revenir dans un pays aussi dévasté? De revenir dans votre ville natale et de n'y trouver que des ruines, comme vu récemment dans les nouvelles dans la région de Los Angeles, mais beaucoup, beaucoup plus vaste. Vous savez, plus de personnes ont été tuées à Tokyo par des bombes incendiaires que par l'une ou l'autre des bombes atomiques d'Hiroshima ou de Nagasaki. Nous n'étions pas les seuls à faire des bombardements incendiaires. Je me souviens d'avoir vécu en Angleterre dans les années 50 et d'être allé à Coventry, qui avait subi un bombardement incendiaire par les Allemands, et bien sûr Londres. La guerre est une chose hideuse. C'est une chose terrible. Et quand on pense à cette dévastation, à bien des égards, le Japon est un microcosme du futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pays s'est relevé. Aujourd'hui, le Japon est une nation prospère. L'Allemagne s'est remise de toutes ces dévastations. Hambourg et Dresde ont également été détruites par des bombes incendiaires. Si vous voulez faire des lectures intéressantes, allez sur Internet, trouvez une bonne source et étudiez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 80 dernières années, nous ne connaissons rien de la guerre mondiale, dans le sens où nous n'avons pas vécu ce qui s'est passé à l'époque. C'était tellement énorme. Et pourtant, Dieu nous dit dans Daniel 12 qu'il va venir un temps qui sera pire que tout ce qui s'est passé à l'époque. Daniel 12, je commencerai au verset 1. Cela fait suite à ce que nous avons lu dans le chapitre 11 de Daniel. Daniel 12, verset 1. « En ces temps-là, c'est donc le temps de la fin. Se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Vous savez, nous espérons que c'est vous et moi qui serons délivrés. Nous espérons être délivrés physiquement, mais encore plus important, il s'agit d'être délivrés de cette existence physique pour une existence spirituelle. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Les intelligents, c'est vous et moi, j'espère. Je dis « je l'espère » parce que nous avons quelque chose à dire à ce sujet. Ce que nous allons faire, comment nous allons réagir. Verset 3. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Quelle meilleure description de notre époque! Nous pensions que cela nous décrivait il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec les connaissances de l'IA qui augmentent à un rythme que nous ne pouvons même pas imaginer. Reportons-nous à Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30, verset 7. Ce verset nous est familier. « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Nous sommes Jacob. Je sais que tout le monde dans cette salle ou dans ce pays n'est pas Jacob. Mais nous vivons là où Jacob vit. » Et peu importe notre nationalité ou notre race, nous allons être pris dans l'engrenage. Nous serons tous dans le même bateau. La bonne nouvelle, verset 7, mais il en sera délivré. Vous savez, j'imagine les gens revenant au Japon après la fin de la guerre. Ils n'ont probablement jamais pensé qu'ils reconstruiraient ou qu'ils pourraient reconstruire. Pouvez-vous imaginer, sur le plan émotionnel, ce qu'ils ont dû vivre? Imaginez ce que vivent les gens d'Altadena ou de Pacific Palisades qui ont subi toutes ces pertes. Ou dans les montagnes, ici, où il neige en ce moment, je suppose, et ils vivent dans des tentes ou des petites caravanes. Nous sommes passés par là et nous avons vu cela. Comme cela a dû être décourageant de se demander « Où vais-je maintenant? Par où commencer? » Et au Japon, ils ont commencé une brique à la fois, en enlevant les décombres et en reconstruisant. Il y a des Écritures dont nous parlons pendant la fête des tabernacles sur la reconstruction des lieux désolés. Vous pouvez les rechercher. Tout comme le Japon est sorti de la Seconde Guerre mondiale, quoi qu'il arrive, le monde en sortira, et ce sera un endroit merveilleux pour vivre et élever nos enfants, ou nos petits-enfants, ou nos arrière-petits-enfants. Nous serons peut-être des êtres spirituels, mais notre progéniture, dans de nombreux cas, vivra dans ces temps nouveaux. Alors, pourquoi jeûner aujourd'hui? Le jeûne nous rappelle ce que nous sommes. Dans Romains 7, Romains chapitre 7, le jeûne est encourageant, mais c'est aussi un moment qui donne à réfléchir, parce que nous devons regarder qui nous sommes et ce que nous sommes. Dans Romains 7, verset 12, la loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, regardez, je suis physique, je suis vendu au péché. Toute ma vie a été une vie de péché. Je ne veux pas dire qu'il commettait un péché horrible, mais un péché est un péché. Il a reconnu qu'il luttait contre son esprit et son corps. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Pourquoi ne puis-je pas surmonter tel ou tel problème? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je ne suis pas en désaccord avec la loi. Si je dis que je veux faire ceci et que je viole la loi, je dis que la loi est bonne, mais le problème est avec moi. Verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » C'est la bataille que nous menons tous. Nous nous faisons baptiser, et il est facile de penser, « D'accord, j'ai réussi, j'ai satisfait aux exigences. Et maintenant, je suis en route vers le royaume de Dieu. Il ne reste plus qu'à être une bonne personne et à éviter les ennuis. » Non, frères et sœurs, c'est plus que cela. Nous devons être comme Jésus-Christ l'était lorsqu'il a marché sur cette terre. Nous voulons nous préoccuper des petites choses comme des grandes. Mais nous voulons avoir la même attitude d'amour et de bienveillance qu'il avait. La même attitude de sacrifice de soi, de don de sa vie pour les autres. Il y a un bon sermon de M. Rod King sur la troisième loi. Il aborde le reste de ce chapitre ainsi que le chapitre 8. Mais laissez-moi revenir aux versets 24 et 25 de Romains 7. « Misérable que je suis! » C'est ainsi que Paul se voyait lui-même lorsqu'il écrivait ces lignes. Je ne pense pas qu'il se promenait tout le temps en disant « Misérable que je suis! » Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire cela. Mais lorsqu'il s'est regardé dans le miroir... Qui sait, peut-être jeûnait-il à cette époque, nous ne le savons pas. Le fait est que, lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il a dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et il connaît la réponse, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, par le Christ qui vit en nous, qui habite en nous, qui nous change, qui nous transforme. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dans ma nature humaine, je ne fais pas ce qui est juste, mais je m'efforce de vivre ce mode de vie. Ésaïe 55. Nous rappelle ce que nous sommes. Là encore, nous devons veiller à ne pas tomber dans l'extrême en nous disant « Bon, d'accord, je suis ce que je suis, donc je ne peux pas être autre chose. » Non. Reportons-nous à Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, les choses que nous faisons, et l'homme d'iniquité ses pensées, les pensées qui nous poussent à faire ce que nous faisons. » Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est la bonne nouvelle. Dieu nous pardonnera abondamment. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous nous repentons de nos péchés, si nous nous efforçons de vaincre, il nous pardonnera abondamment. Bien sûr, nous devons aussi pardonner aux autres les transgressions qu'ils ont commises à notre égard. N'oublions pas d'en tenir compte dans nos prières, comme le Christ nous le dit dans la prière modèle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu permet que les choses se passent comme elles le font. Parfois nous jeûnons, et nous le faisons parce que nous voulons que quelqu'un soit guéri ou plusieurs personnes, ou parce qu'une crise est survenue dans notre vie. Peut-être nous avons perdu notre emploi, nous avons besoin d'en trouver un autre. Alors nous jeûnons, c'est bien, c'est bon, c'est acceptable. Mais nous devons aussi reconnaître que notre volonté et ce que nous voulons n'est pas toujours ce que Dieu veut, et il sait des choses que nous ne savons pas. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que la mort n'est pas la fin de tout. Il sait que la douleur et la souffrance finiront par disparaître. Nous devons tous adopter cette attitude, que ta volonté soit faite et non la mienne. Comme le Christ disait la nuit où il fut trahi et emmené en détention pour être crucifié, il voulait échapper à ce qui l'attendait. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Ses pensées sont différentes. Il a une vue d'ensemble. Il regarde ce qu'il peut obtenir de chacun d'entre nous. Et je dis obtenir, non pas d'une manière égoïste de sa part, mais parce qu'il veut faire sortir le meilleur de nous, comme un professeur qui essaie de tirer le meilleur d'un élève, ou un parent qui essaie de tirer le meilleur de son fils ou de sa fille. C'est ainsi que Dieu est. Il sait jusqu'où nous pousser. Et comment nous traiter afin d'obtenir ce qu'il attend de nous, et nous pouvons lui en être reconnaissants, parce qu'il veut que nous réussissions le mieux possible dans cette vie en vue de son royaume. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2, et il semble que cela soit lié à Ésaïe 55, mais dans 1 Corinthiens 2, versets 6 à 10, 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Remarquez! Pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous savez, Dieu a quelque chose en tête pour vous et pour moi, et pour la personne assise à côté de vous. Il a quelque chose en tête pour nous. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il y a en tête pour moi, mais j'y crois. Et ça va être bon, ce sera fantastique, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, nous ne connaissons peut-être pas tous les détails, mais nous en avons une vue d'ensemble. Nous pouvons voir que Dieu élabore un plan et un but ici-bas et que nous en faisons partie. Nous ne savons pas exactement quel sera notre travail dans le royaume de Dieu, au cours du millénium et au-delà. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais nous en avons l'image. Nous voyons à travers un verre sombre, mais nous voyons un peu de ce que Dieu a en tête pour nous. Nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Nous pouvons comprendre pourquoi les lois sont en vigueur et pourquoi il est important de les respecter. Nous pouvons comprendre certaines de ces choses que le monde ne comprend tout simplement pas. Ma femme parlait à l'une des voisines. Elle leur parle tout le temps. Elle va se promener avec certaines d'entre elles. Quelques-unes d'entre elles suivent des cours bibliques. Je suppose que l'une d'entre elles étudie le livre des Actes des apôtres à ce moment. Elle a une grande salle pleine de femmes qui étudient ces choses, et je lui ai dit, « Peut-être pourrais-tu leur donner quelques passages des Écritures qui pourraient faire bouger les choses? » Ce qu'elle ne fera pas, bien sûr. Et, à juste titre, mais comment peuvent-ils lire la Bible et ne pas en conclure que nous devons observer le sabbat et les jours saints? Pourtant, nous avons le sabbat et les jours saints. Mais que faisons-nous à ce sujet? Reconnaissons-nous que Dieu va nous juger avec plus de sévérité qu'il ne jugera ces personnes? Parce que nous connaissons la vérité. Et il attend quelque chose de nous. Paul enchaîne au verset 11. « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné, à vous et à moi, son Saint-Esprit. Il est uni à notre esprit, comme nous le lisons dans le livre aux Romains. L'Esprit de Dieu et notre esprit s'unissent. Et c'est cela le changement. Cela nous transforme. Dieu veut donc que nous nous souvenions de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous devons devenir, ou du moins, nous avons la vision de ce qu'était le Christ en lisant ses paroles et en voyant que c'est la façon dont nous devons être. Le jeûne nous rappelle notre besoin de nous repentir, de croître et de changer. Colossiens chapitre 3. Nous lisons cela assez souvent, je pense. Colossiens 3 est très similaire à quelque chose dans Éphésiens. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parfois, les choses de la terre sont si importantes pour nous. Vous savez, je me souviens quand j'étais jeune, c'est difficile à croire que je me souvienne d'aussi loin, mais c'est le cas, et j'aimais énormément le baseball. Sandy Koufax, Don Drysdale, Murray Wilkes et Frank Howard, le grand gaillard, ne frappait pas souvent la balle hors du parc. Mais quand il le faisait, elle allait loin. C'était important pour moi. Tous les soirs, je devais écouter le match. Et vous savez, quand on est jeune, je pense que ces choses ont tendance à être plus importantes. Mais lorsque nous devenons adultes, même M. Armstrong est arrivé à un moment où je pense qu'il a réalisé que tout est un jeu avec les gens. Tout est un sport. Il était un fan des sports. Même dans ses dernières années de sa vie, il suivait les Lakers. Il allait même jusqu'à assister à certains matchs des Lakers, et c'était important pour lui. Mais parfois, ces choses sont tellement disproportionnées. Il y a tant de choses dans cette vie qui nous enthousiasment. Et ce n'est pas mal. Dieu ne veut pas que nous vivions une vie ascétique, où nous ne nous amusons pas et nous n'avons pas de passe-temps, où nous n'avons rien à faire dans cette vie qui nous apporte du plaisir. Mais parfois, nous sommes bien trop pris par ces choses. Et là encore, je vais revenir à la politique. Nous pouvons être tellement pris par la politique que nous passons à côté de la vue d'ensemble. Nous commençons à catégoriser les gens, certains comme étant toujours bons et toujours justes, et d'autres comme étant toujours mauvais et toujours faux. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, lorsque nous avons été baptisés, Nous avons représenté notre mort, notre enterrement et notre passage à un nouveau mode de vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, est-ce que le Christ est notre vie? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est là le but. Tout ce que nous traversons dans cette vie n'est rien comparé à cela. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Et il parle de certaines choses que nous devons vraiment mettre à mort. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, voyez-vous l'une ou l'autre de ces choses? Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, mentalement, ces choses sont-elles là? J'ai déjà mentionné la pornographie. C'est une affaire importante. Hommes et femmes, garçons et filles, cela vient à nous. Cela fait partie de ce monde et il faut le combattre. Colossiens 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Oui, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas de place pour le racisme et toutes les choses de ce genre qui se passent dans le monde. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Nous pourrions continuer à lire, tant il y a de choses à dire. Le jeûne nous rappelle ce que nous sommes, et nous rappelle que nous avons besoin de nous repentir, de croître et de changer. Il nous rappelle également que nous avons besoin de notre Créateur, que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Et je sais que pour les athées, cela ressemble à une échappatoire, que nous sommes faibles parce que nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider. Dawkins et ses semblables accusent tous ceux qui croient en Dieu d'être faibles. Remarquez dans Philippiens 4. Philippiens 4. Et je ne devrais probablement même pas avoir besoin de me reporter à ce verset. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire dans le cadre des lois de Dieu et de ce que Dieu veut pour nous. Si le Christ vit sa vie en nous par la puissance de son esprit. Et comment y parvenir? Nous nous humilions. Nous nous repentons de nos transgressions. Nous pardonnons aux autres. Nous commençons à traiter les gens, tous les gens, avec gentillesse et compassion. Cela ne veut pas dire que nous ne disons pas la vérité, mais nous devons traiter les personnes que nous rencontrons avec gentillesse et compassion. Et même ceux qui sont loin. Nous ne devons pas toujours porter des jugements sur eux, comme nous avons tendance à le faire avec les politiciens et diverses autres personnes. Plus vous apprenez à connaître les gens, plus vous appréciez le fait que nous sommes tous humains. Je n'aimais pas Deion Sanders, le joueur de football. Il jouait pour Dallas, ce qui rendait la chose encore pire. Dallas prétendait être l'équipe de l'Amérique. ce qui était une sorte d'insulte pour le reste d'entre nous, mais quoi qu'il en soit. De son surnom, Neon Dion est un type un peu tape à l'œil. Je l'ai vu un soir à l'émission Running Wild with Bear Grylls. Bear Grylls emmenait des célébrités dans des endroits où elles ne se sentaient pas du tout à l'aise. Et Deion Sanders n'était certainement pas à l'aise. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire une fois, mais donnez-moi une chance. Je me fais vieux, j'oublie. Monsieur Grylls l'a emmené, puis ils se sont arrêtés pour manger ou faire une pause. Puis il y a ces discussions en soirée qui sont la meilleure partie de l'émission. Et Sanders disait qu'il avait tout pour lui. Il avait du vin, des femmes et des chansons, littéralement dans tous les sens du terme. Et il disait « Je n'étais pas heureux ». Il a donc commencé à revenir aux éléments fondamentaux de son enfance, à la religion. Or, il s'est trompé d'église car il parlait en langue. Bear Grylls l'a envoyé sur une falaise où il aurait pu tomber et se tuer. Et il priait en langue. Néanmoins, j'ai vu le côté humain de cet individu. Et j'ai réalisé que je m'étais trompé sur cette personne. Oui, il était très voyant, il était jeune, il était en bonne santé. Il était au sommet de sa carrière. Il gagnait de l'argent, il avait toutes ces choses. Comment est-ce que je m'attendais à ce qu'il agisse? Mais c'était un être humain. Et nous devons être indulgents avec les gens. Nous pouvons faire toutes choses par le Christ qui nous fortifie. Cela nous rappelle que nous avons besoin du Christ. Rappelons-nous Jean 15. Revenons à Jean 15, versets 1 à 5. Jean 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut donc que nous portions plus de fruits. Il veut que nous réussissions mieux. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors pourquoi jeûnons-nous? Pour nous rappeler qui nous sommes, notre besoin de nous repentir, de croître et de changer. Cela nous rappelle que nous avons besoin de notre Créateur, que nous ne pouvons pas y arriver seuls. C'est pourquoi nous nous levons le matin pour prier. C'est pourquoi nous nous levons et étudions la parole de Dieu quotidiennement. Et quand nous en avons la possibilité, nous nous mettons à genoux trois fois par jour, matin, midi et soir, comme l'a fait David, tout comme l'a fait Daniel. Nous devons suivre leur exemple. Et de temps en temps, nous jeûnons pour nous réveiller un peu, pour sortir de notre sommeil et pour reconnaître que nous avons besoin de notre Créateur. En bref, nous devons regarder dans le miroir de nos pensées et de nos actions et faire ce qui est dit dans Jacques 1. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. J'espère que nous ne ferons pas cela. J'espère que je ne ferai pas cela. Nous ne pouvons pas nous réveiller demain matin et rester la même personne qu'hier. Nous devons nous regarder dans le miroir et ne pas oublier quel genre de personne nous sommes. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, pensons-nous être religieux? J'espère que c'est le cas, dans le bon sens du terme. Mais il écrit, sans tenir sa langue en bride, Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vaine. Le mot est fort. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce sont des écritures très puissantes. Notre défi est d'avertir les nations israélites, d'avertir le monde, et aussi de nous avertir nous-mêmes, d'avertir l'Église de ce qui va arriver. En même temps, nous devons donner de l'espoir. Nous devons donner de l'espoir au monde. Il est facile de trouver des choses qui ne vont pas, mais pas toujours facile de trouver des choses qui sont justes. Vous savez, si nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu, à quel point cela nous transformera? Reportons-nous au livre de Jonas. Je n'ai pas le temps de parcourir tout le livre, en fait, je ne vous donnerai qu'un verset. Mais permettez-moi de commencer en disant que Jonas a reçu l'ordre d'aller à Ninive et de prêcher à Ninive. Je ne sais pas ce qu'il savait de Ninive, mais apparemment, il pensait qu'elle pourrait se repentir. Ce n'est pas rien quand on y pense. Mais quand on lit le récit, c'est un peu l'idée qu'il avait. Où est-il donc allé? Il partit pour Tarsis. La plupart des commentaires disent que c'est l'Espagne. À savoir qu'il se dirigeait vers l'Espagne. Il fut jeté dans la mer, la Méditerranée, avalé par un poisson géant, et tout le monde passe beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'était ce poisson. Puis il prêche un message puissant à Ninive. Et tous se repentent en se couvrant de sacs et de cendres, et même leurs animaux devaient jeûner. Reportons-nous à Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Puis Jonas monte au sommet de la colline pour observer et voir ce qui se passe, et il fait chaud. Dieu lui donne alors une plante qui pousse en une nuit. Puis Dieu crée un ver. Le poisson, une plante, un ver. Il n'y avait pas que le poisson. Et le ver mange la plante, et là, Jonas a chaud, il est malheureux et bouleversé. Je pense qu'un de ces jours, parce que je crois vraiment qu'il sera dans le royaume, il lira ceci, et il saura que le monde entier est au courant de ce qu'il a fait. Jonas 4, verset 9. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. » Verset 11. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Vous voyez, Ninive, les Assyriens, les anciens Assyriens, les Allemands d'aujourd'hui, ils font partie de l'œuvre de Dieu. Dieu a simplement des objectifs différents pour des personnes différentes à des moments différents, mais tout le monde fait partie de son plan. Je me souviens d'avoir marché dans la rue pendant la COVID. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas entendue. Et sur le trottoir, beaucoup d'enfants de notre quartier s'adonnaient à l'art de la craie. Je me souviens d'avoir vu une écriture à cet endroit. Dans Jérémie 29, verset 11, c'est devenu une sorte d'écriture célèbre. Elle est souvent citée dans le monde évangélique, je crois. Et ils n'en connaissent pas le contexte. Ils ne lisent pas le contexte. Vous pouvez le faire, car je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet. Mais le fait est que Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu fait traverser à notre monde des moments difficiles, ou il nous permet de traverser des moments difficiles que nous avons provoqués nous-mêmes. Et je ne peux pas me contenter de dire que tout ira pour le mieux l'année prochaine. Je ne vais pas non plus vous dire que tout va être horrible et terrible, je ne sais pas. Mais ce que je sais, et je pense que la plupart d'entre nous dans cette salle le perçoivent, c'est que le temps est court. Un jour ou l'autre, nous nous réveillerons et le monde ne sera plus celui que nous connaissons aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons encore beaucoup de nourriture. Nous nous en sortons plutôt bien. Mais notre monde va changer. Cela viendra, à un moment ou à un autre. Mais pour les jeunes, faites ce qui est juste et laissez Dieu s'en occuper. Faites confiance à Dieu que tout va bien se passer. Faites ce que vous avez à faire quand vous avez à le faire. Et pour le reste d'entre nous, peut-être que la pensée de ce qui est arrivé au Japon, toutes ces villes brûlées et détruites, et les gens qui reviennent et doivent recommencer, peut-être que c'est un exemple, une métaphore du monde de demain. Le monde actuel va être dévasté à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Et nous sortirons d'un lieu de sécurité où nous serons ressuscités et nous aurons une nouvelle vie. Si nous sommes morts, nous serons ressuscités et nous pourrons voir ce qui s'est passé. Et pourtant, le monde se reconstruira. Mais l'essentiel pour nous en ce moment, c'est que nous soyons là, que nous fassions le travail que Dieu nous a confié. Et nous avons besoin de jeûner pour savoir ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que nous avons besoin de Dieu pour y parvenir. Nous devons nous regarder dans ce miroir et voir ce que Dieu veut que nous changions.